Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Dans l'actualité de l'Église de cette édition, nous vous parlerons du don de médicaments du pape à l'orphelinat Nazareth de Brazzaville, en République du Congo, avant de vous donner des nouvelles de l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. Plus d'une centaine de millions de personnes pauvres sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique en Afrique. C'est ce qu'a indiqué mardi l'ONU dans un rapport sur l'état du climat en Afrique, publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira ensuite au Mali, au Nigeria, au Maroc, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape présidera le 5 novembre prochain une célébration eucharistique sur le campus romain de l'Université catholique du Sacré-Cœur à l'occasion du 60e anniversaire de l'inauguration de la faculté de médecine et de chirurgie de l'université. L'annonce a été faite lundi 18 octobre par la préfecture de la maison pontificale. L'orphelinat foyer Nazareth de Brazzaville, en République du Congo, a reçu au début du mois d'octobre des médicaments offerts par le pape François. Joint au téléphone par Donasi Nyembo, sœur Élise Vouakouanitou, fondatrice et responsable de cet orphelinat qui accueille 22 enfants, nous livre ses impressions avant de nous parler de cette structure.
J'ai remercié le Saint-Père pour les médicaments qu'ils nous ont envoyés. Parce que j'ai des enfants ici qui sont drépanos total. Chaque jour, ils prennent les médicaments. L'orphelinat a 22 enfants. J'ai 22 enfants ici, sous le même toit. Il y a des orphelins, il y a des enfants abandonnés qui n'ont pas de parents. Il y a des enfants aussi qui ont des parents qui ont fait des troubles mentaux. Il y a un ici présent, un bébé, 2 ans. Sa maman avait fait des troubles mentaux. Hein, pour les nourrir, avant, parfois ma famille m'aidait. Mais j'avais fait mes recherches. Après, on m'a montré une association italienne. C'est cette association-là qui m'aide, qui a pris la charge de la scolarité des enfants et la santé des enfants.
Sœur Élise Vouakouanitou, fondatrice et responsable de l'orphelinat Foyer Nazareth de Brazzaville en République du Congo. Pour Immaculée, une jeune fille qui a bénéficié de l'assistance de cette structure et qui œuvre à son tour, le foyer Nazareth apprend à vivre la fraternité au-delà du lien de sang. On écoute.
Personnellement, c'est une belle expérience parce que ça aide à grandir, à se connaître mieux, à connaître les autres et à être ensemble surtout. Et la prière, tout ça. Ce que moi j'ai compris de cette expérience, c'est que par rapport au lien du sang, je rencontre une personne et nous n'avons pas un lien de sang, mais cette personne devient pour moi plus que... C'est comme si nous avons le même sang.
La phase diocésaine du synode sur la synodalité s'est ouverte, comme annoncé le dimanche 17 octobre, dans toutes les églises particulières à travers le monde. En Côte d'Ivoire, dans les cathédrales d'Abidjan, de Bondoukou et d'Abengourou, les différents pasteurs ont appelé leurs fidèles à contribuer à la réussite de ce synode par leur implication personnelle. Le compte rendu de notre correspondant local.
Pour une meilleure implication et participation de ses fidèles à la réussite de ce synode, le cardinal Jean-Pierre Coutois, en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, a invité toutes les forces vives et de son diocèse à combattre en eux le statut de chrétien consommateur, invitant également ses prêtres et toutes les paroisses à approfondir les documents liés à la marche synodale pour une église missionnaire.
Pour une église synodale, communion, participation et mission signifie qu'il n'y a point de chrétiens de seconde zone. Chacun de nous est appelé à récuser, à combattre le statut de chrétien consommateur pour s'engager avec foi dans la mission de l'Église pour le salut de toute l'humanité.
En la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou, Mgr Bruno Essoyodo, lui, a exhorté ses fidèles en cette ouverture du synode sur la synodalité à être des témoins dans leur milieu de vie.
Laïcs, consacrés et ordonnés, nous sommes invités à être attentifs à ce que l'Esprit va nous dire pour prendre de bonnes décisions pour le bien de l'Église. Dans le cadre de ce synode qui s'ouvre, soyons tous des témoins dans nos milieux.
Cette messe, également vécue dans le diocèse d'Abengourou, Mgr Boniface Ziri, en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, a indiqué à ses fidèles que cet itinéraire qui s'inscrit dans le sillage de l'adjonamento de l'Église est un don et un devoir pour toute l'Église et chacun de nous. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Parlons à présent de la première session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin pour la nouvelle année pastorale 2021-2022.
L'archidiocèse de Cotonou au Bénin a accueilli le dimanche 16 octobre 2021 en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou la première session ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin pour la nouvelle année pastorale 2021-2022. Cette célébration a consacré également au plan national l'ouverture officielle du synode sur la synodalité décrétée par le pape François. Le père Ponce Akenon, curé de la paroisse d'accueil, a saisi donc cette opportunité pour affirmer.
Vos échanges et réflexions que nous vous souhaitons déjà très fructueux sur la mouvance de l'Esprit Saint, ainsi que vos recommandations dans le cadre de ce synode nous permettront de nous engager à nouveau en tant que baptisés à marcher ensemble.
Quant à Monseigneur le nonce à l'homélie, il a insisté sur la mission attendue du peuple de Dieu cette année.
Il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu.
Remerciant ses pères dans l'épiscopat, y compris son prédécesseur émérite Mgr Antoine Gagné, l'ordinaire du lieu Mgr Roger Humbedi a exhorté les fidèles chrétiens à soutenir de leurs prières la session des évêques. Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'est tenue le samedi 16 octobre au Palais des Sports de Ouagadougou. En présence du chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kabore, au lendemain de cette ouverture solennelle, le père Janvier Yameogo du dicastère pour la communication du Vatican a présidé une messe dite « Messe des cinéastes ».
Après le clap du président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, marquant le début officiel de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO samedi 16 octobre dernier, un clap spirituel pour ainsi dire s'en est suivi dimanche 17 courant avec la messe dite des cinéastes qu'a présidé Mgr Janvier Yameogo en l'église Saint-Jean 23 de Ouagadougou. Il s'exprime au sorti de cette messe.
Depuis le début du FESPACO, il y a eu l'implication de l'Église participe avec un jury qui s'appelait OSIC, l'Organisation catholique internationale pour le cinéma et la communication. Ensuite, maintenant, c'est CINIS, un jury qui décerne toujours un prix spécial lors du FESPACO pour encourager les cinéastes à travailler à promouvoir les valeurs chrétiennes.
CINIS, dont les membres du jury ont pris part à cette célébration, a toujours décerné un prix spécial depuis la création de ce festival en 1969. Le secrétaire général de la Commission épiscopale de communication sociale, M. l'abbé Alexis Ouedraogo, insiste là-dessus.
Le CINIS et le FESPACO, c'est une histoire d'amour. Le jour où CINIS ne sera pas au FESPACO, ça veut dire que le FESPACO n'est pas organisé. Nous sommes là dans le cadre donc, de ce prix qui va être décerné et au film qui va répondre aux critères. C'est-à-dire selon les valeurs chrétiennes, par exemple de la paix, de la solidarité, la sauvegarde de l'environnement.
L'heureux gagnant sera connu vendredi prochain par la DAO Ouagadougou pour Radio Vatican.
Au Togo, les évêques de ce pays seront en session ordinaire du 19 au 22 octobre prochain dans le diocèse de Sokodé. Parmi les sujets à l'ordre du jour figure l'enseignement catholique au Togo, la vie des prêtres, le prochain synode des évêques dont l'ouverture a été faite tant à Rome par le pape François le 10 octobre dernier que par les évêques dans tous les diocèses à travers le monde le 17 octobre. En dehors des audiences qui seront accordées aux recteurs et aux économes des trois grands séminaires du pays. Les évêques recevront aussi une délégation de l'Union des supérieurs majeurs du Togo, de même que les responsables de Catholic Relief Service, entre autres.
Nous vous annonçons qu'à partir du 31 octobre 2021, date coïncidant avec le passage à l'heure d'hiver et suivant les directives de la Conférence de coordination des services de radiodiffusion en ondes courtes, les changements de fréquence suivants seront nécessaires. Notre émission des 17 heures juste en temps universel passera à 11 935 kHz, bande de 25.19 mètres et 9 705 kHz, bande de 30.91 mètres. Celle de 20h30 en temps universel passe à 7365 kHz, bande de 40.73 mètres et 6010 kHz, bande de 49.91 mètres. En espérant que ce changement vous donne satisfaction, nous vous remercions de vos remarques sur une éventuelle défaillance technique.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Plus d'une centaine de millions de personnes pauvres sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique en Afrique, où les rares glaciers devraient avoir disparu d'ici les années 2040, a indiqué mardi l'ONU. Dans un rapport sur l'état du climat en Afrique, publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, l'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique et souligne que le changement climatique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de populations sur le continent l'an dernier. D'ici 2030, on estime que jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique si des mesures adéquates ne sont pas prises, a déclaré la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, Josepha Leonel Correia Sako, dans l'avant-propos du rapport. En Afrique subsaharienne, le changement climatique pourrait entraîner jusqu'à 3% de baisse supplémentaire du produit intérieur brut d'ici 2050, a-t-elle ajouté. Des militaires français ont tué une femme lundi dans la région de Gossi, dans le nord du Mali, alors qu'ils poursuivaient 2 personnes qui venaient d'abandonner une moto transportant une arme et des munitions, a annoncé mardi l'état-major. C'était pendant une mission de reconnaissance franco-malienne dans une zone où des éléments d'un groupe armé terroriste avaient été détectés à l'est de Gossi. Les victimes des violences policières au Nigeria attendent toujours justice un an après la sanglante répression par l'armée et la police d'un large mouvement de contestation dans le pays. C'est ce qu'a affirmé Human Rights Watch dans un rapport publié mardi. Les autorités nigériennes doivent prendre les mesures concrètes et décisives pour que les personnes responsables des bavures commises contre les manifestants soient poursuivies, a appelé l'Organisation de défense des droits humains. La Turquie entend promouvoir des relations avec les pays africains sur la base d'un partenariat égalitaire gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel, a assuré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan en concluant une visite en Angola, première étape d'une tournée en Afrique. Nous, en Turquie, nous attachons une grande importance à la relation étroite que nous entretenons avec le continent africain, a affirmé le président Erdogan devant un parterre d'hommes d'affaires angolais. Nous désirons faire progresser ces relations sur la base d'un partenariat égalitaire gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel, a-t-il assuré.
Radio Vatican, Français-Afrique, Françoise Niamier.
Des proches de 70 Guinéens exécutés sous le régime de Sékou Touré ont demandé lundi au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, la réhabilitation et une sépulture digne pour les victimes à l'occasion du 50e anniversaire du massacre. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a dépêché lundi une mission de coalition dans le conflit en Libye au nom de l'Union africaine dans la perspective de l'organisation de l'élection présidentielle prévue cette année, a indiqué une source officielle congolaise. La police marocaine a saisi lundi 1,35 tonnes de cocaïne à Tanger en provenance du Brésil, une des plus grosses quantités de poudre blanche saisies au Maroc ces dernières années selon la Direction générale de la Sûreté nationale.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-Josée Moindo-Boisboilo pour le magazine sur le développement.
Notre magazine sur le développement nous conduit au Congo-Brazzaville. Ce pays a décidé d'augmenter sa production du brut en 2022. Les compagnies pétrolières nationales veulent profiter de la reprise des cours du pétrole et des opportunités qu'offre l'adhésion du pays à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Elles ont affiché leurs ambitions le 18 octobre à Brazzaville à l'issue de la réunion trimestrielle des prix. Tous les signaux sont au vert pour le secteur pétrolier congolais, notamment pour les bruts, à savoir Geno Mélange, Kossa Blend, Yombo, Kossa Butane et Kossa Propne. S'appuyant sur les estimations de l'OPEP sur la tendance haussière des prix du baril, les experts nationaux entendent booster leurs activités de production et de commercialisation dès cette fin d'année. Le prix de baril de Brent devrait afficher une moyenne autour de $80 baril au quatrième trimestre 2021, tandis que la moyenne des prix fixés des bruts produits en République du Congo au troisième trimestre était de $74,4 par baril. La dynamique actuelle du marché pétrolier est provoquée, d'après les experts, par le déficit de l'offre par rapport à la demande du pétrole soutenue par l'abandon du gaz et du charbon couplé à la gestion continue des marchés de l'OPEP. Le pays mise sur la demande chinoise pour des barils Kossa qui s'est consolidé sur la période d'août à octobre 2021. Tous les liftings effectués sur cette période vont vers la Chine. Le marché de Geno Mélange, quant à lui, a accusé l'effet de la baisse imposée de demandes chinoises liées au quota d'import. Le marché chinois a pesé encore très lourdement sur les différentiels du Geno du fait que de nombreux raffineurs indépendants chinois avaient déjà atteint leur quota maximal alloué. Le brut Geno est tout de même maintenu à des niveaux très honorables, assure-t-on. Pour essayer de soutenir les compagnies pétrolières, le gouvernement congolais a annoncé une amélioration de l'environnement fiscal. L'État étudie toute possibilité, a affirmé le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoi, pour pouvoir diversifier le marché de destination de brut congolais et les formes de commercialisation de brut congolais, y compris pour protéger la production nationale contre les volatilités du marché mondial en envisageant des contrats avec des raffineries directement. Rappelons que le Congo-Brazzaville a adhéré à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP en 2018. Et en assurera la présidence en 2022. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général de l'organisation au cours d'une récente visite au Congo. M. Mohamed Barkindo a constaté avec satisfaction que les sociétés pétrolières continuent d'investir au Congo, permettant de rendre l'énergie accessible à tous. Désormais, au sein de l'OPEP, sur 14 membres permanents, 7 sont africains, à savoir le Gabon, l'Angola, le Nigeria, l'Algérie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Congo. Ce dernier assurera, nous l'avons dit, la présidence de l'organisation en 2022. Cette visite coïncidait avec la rédaction au Congo-Brazzaville d'un nouveau code des hydrocarbures, une manière d'affirmer ou plutôt de réaffirmer divers objectifs stratégiques nationaux et des engagements politiques forts pour améliorer la place du pays dans la chaîne de valeur pétrolière.
Donatien Nyembo nous présente la rubrique consacrée à l'écuménisme et au dialogue interreligieux.
La déclaration interconfessionnelle conjointe pour la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre cette année, nous invite à prier et à agir contre la faim alors que 811 millions de personnes vont se coucher chaque soir le ventre vide. C'est par cette information que nous commençons cette rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Les causes convergentes de cette crise sont les conflits et la violence, la pauvreté et les inégalités, les catastrophes et les impacts du changement climatique, aggravés par la pandémie de COVID-19 qui a entravé la production alimentaire, les chaînes d'approvisionnement et réduit les revenus, peut-on lire dans la déclaration signée par le Conseil œcuménique des Églises et d'autres organisations confessionnelles mondiales. Des ménages vulnérables sont touchés dans presque tous les pays, indique la déclaration, qui note également que la réduction de la qualité et de la quantité des aliments consommés compromet la nutrition des personnes et met en péril les gains durement acquis en matière de réduction de la pauvreté, de statut nutritionnel et de santé, menaçant les développements cognitifs et physiques des jeunes enfants avec un impact durable sur les nations pour les générations à venir. Même dans les pays les plus touchés, la famine est évitable, peut-on lire dans la déclaration. Nous devons agir immédiatement afin d'empêcher la mort inutile des dizaines de milliers d'enfants. Les groupes confessionnels ont déploré le fait que la faim oblige les gens, y compris les enfants et leurs familles, à faire de choix dangereux en matière de survie. La déclaration réclame que les 7 milliards de dollars américains mobilisés dans le cadre du pacte du G7 pour la prévention de la famine et des crises humanitaires soient versés de toute urgence à ceux qui en ont besoin. Les groupes confessionnels se sont également engagés à collaborer afin d'avoir un impact sur les politiques, les engagements financiers et les actions à plus long terme qui sont nécessaires pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents de la faim et de l'insécurité alimentaire. Nous croyons que notre monde a assez de ressources pour tous et que la famine et la faim sont synonymes d'échec éthique et moral collectif, conclut le texte. Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à nous pour agir et empêcher que davantage de personnes souffrent de la faim, mais aussi à réclamer justice pour les personnes les plus vulnérables. Le Conseil œcuménique des Églises a accueilli le 13 octobre une conférence d'interface entre les COE, l'Église évangélique en Allemagne, le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, le réseau transatlantique et divers diplomatiques basés à Berlin pour discuter du rôle vital que le COE, les Églises et les communautés religieuses du monde entier jouent dans la promotion de la santé et de la guérison des personnes, en particulier dans les contextes de suite de la pandémie. COVID-19. Le COE et ses églises membres sont depuis longtemps profondément engagés dans les questions de santé et dans la démonstration de la nécessité de compléter les aspects scientifiques et médicaux de la santé par des approches fondées sur la foi. La conférence a renforcé la position du COE et des communautés religieuses du monde entier en tant que partenaires essentiels pour garantir l'égalité d'accès aux soins de santé et contrer les informations trompeuses sur les programmes de vaccination. La conférence s'inscrit dans le cadre des réunions et consultations préparatoires à la 11e assemblée du COE prévue du 31 août au 8 septembre 2022 en Allemagne. Lors de l'ouverture de la conférence, le père Johann Soka, secrétaire général par intérim du COE, s'est exprimé sur la pandémie, le Conseil œcuménique des Églises et la santé mondiale. Clôturons notre rubrique par cette nouvelle qui nous vient de l'Autriche, 665 000 enfants dans l'enseignement religieux des églises. Le Conseil œcuménique des églises en Autriche a souligné l'importance de l'éducation religieuse dans une déclaration publiée par son conseil d'administration, se félicitant de l'introduction de cours d'éthique pour tous les élèves qui ne suivent pas un enseignement religieux confessionnel dans le pays. À l'avenir, cela permettra de s'assurer que ces enfants et ces jeunes abordent également les questions éthiques de manière structurée à l'école, indique le communiqué du Conseil œcuménique des Églises autrichiennes. Le comité de direction du Conseil espère que les deux sujets bénéficieront des conditions équitables dans la pratique. Selon l'institution, environ 665 000 enfants et jeunes suivent des cours d'éducation religieuse dans le pays. Bien entendu, l'éthique et la religion ne sont pas opposées. Les aspects éthiques sont une partie fondamentale de la religion, car ils traitent des questions de coexistence sociale, de paix, de justice, de responsabilité envers la création ou des droits de l'homme, relève le Conseil œcuménique. nous vous annonçons qu'à partir du 31 octobre 2021, date coïncidant avec le passage à l'heure d'hiver et suivant les directives de la Conférence de coordination des services de radiodiffusion en ondes courtes, les changements de fréquence suivants seront nécessaires. Notre émission des 17 heures juste en temps universel passera à 11 935 kHz, bande de 25.19 mètres et 9 705 kHz, bande de 30.91 mètres. Celle de 20h30 en temps universel passe à 7365 kHz, bande de 40.73 mètres et 6010 kHz, bande de 49.91 mètres. En espérant que ce changement vous donne satisfaction, nous vous remercions de vos remarques sur une éventuelle défaillance technique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Le prochain rendez-vous avec le service Français-Afrique de Radio Vatican, c'est pour demain, à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.